La belle Nivernaise d'Alphonse Daudet. Chapitre 3. En route. Victor était en route. En route pour la campagne de banlieue, mirant dans l'eau ses maisonnettes et ses potagers. En route pour le pays blanc des collines crayeuses. En route le long des chemins de halage, sonores et dallés. En route pour la montagnette, pour le canal de Lyonne, endormi dans son lit d'écluse. En route pour les verdures d'hiver et les bois du Morvan. Adossé à la barre de son bateau et entêté dans sa volonté de ne pas boire, François faisait la sourde oreille aux invitations des éclusiers et des marchands de vin, étonné de le voir passer au large. Il fallait se cramponner à la barre pour empêcher la belle Nivernaise d'accoster les cabarets. Depuis le temps que le vieux bateau faisait le même voyage, il connaissait les stations et s'arrêtait tout seul, comme un cheval d'omnibus. À l'avant, jugé sur une seule patte, l'équipage manœuvrait mélancoliquement une gaffe immense, repoussait les herbes, arrondissait les tournants, accrochait les écluses. Il ne faisait pas grande besogne, bien qu'on entendît jour et nuit le clabaudement de sa jambe de bois. Résigné et muet, il était de ceux pour qui tout a mal tourné dans la vie. Un camarade l'avait éborgné à l'école. Une hache l'avait estropié à la scierie. Une cuve l'avait ébouillanté à la raffinerie. Il aurait fait un mendiant, mourant de faim au bord d'un fossé, si Louveau, qui avait toujours eu du coup d'œil, ne l'eût embauché à la sortie de l'hôpital pour l'aider à la manœuvre. Ça avait même été l'occasion d'une fière querelle autrefois, exactement comme pour Victor. La femme de tête s'était fâchée. Louveau avait baissé le nez, et l'équipage avait fini par rester. À présent, il faisait partie de la ménagerie de la belle Nivernaise, au même titre que le chat et le corbeau. Le père Louveau gouverna si droit, et l'équipage manœuvra si juste, que 12 jours après son départ de Paris, la belle Nivernaise, ayant remonté le fleuve et les canaux, vint s'amarrer au pont de Corbigny pour dormir en paix son sommeil d'hiver. De décembre à la fin février, les mariniers ne naviguent pas. Ils radoubent leurs bateaux et parcourent les forêts pour acheter sur pied les coupes de printemps. Comme le bois n'est pas cher, on brûle bon feu dans les cabines. Et si la vente d'automne a bien réussi, ce temps de chômage est un repos joyeux. On disposa la belle Nivernaise pour l'hivernage, c'est-à-dire que l'on décrocha le gouvernail, que l'on cacha le mât de fortune dans l'autre pont et que toute la place resta libre pour jouer et pour courir sur le tillac. Quel changement de vie pour l'enfant trouvé! Pendant tout le voyage, il était demeuré, abasourdi, effarouché. On aurait dit un oiseau élevé en cage que la liberté étonne et qui oublie du coup sa roulade et ses ailes. Trop jeune pour être charmé du paysage déroulé sous ses yeux, il avait subi pourtant la majesté de cette montée du fleuve entre deux oraisons fuyants. La mère Louveau, qui le voyait sauvage et taciturne, répétait du matin au soir: il est sourd, muet? Non, il n'était pas muet, le petit Parisien du faubourg du Temple. Quand il eut bien compris qu'il ne rêvait pas, qu'il ne retournerait plus dans sa mansarde, et que malgré les menaces de la mère Louveau, on n'avait plus grand-chose à craindre du commissaire, sa langue se délia. Ce fut l'épanouissement d'une fleur de cave que l'on porterait sur une croisée. Il cessa de se blottir dans les coins avec une sauvagerie de furet traqué. Ses yeux enfoncés sous son front bombe perdirent leur mobilité inquiète. Et bien qu'il restât pâlot et de mine réfléchie, il apprit à rire avec Clara. La fillette aimait passionnément son camarade, comme on aime à cet âge-là, pour le plaisir de se quereller et de se raccommoder. Bien qu'elle fût têtue comme une petite bourrique, elle avait un cœur très tendre, et il suffisait de parler du commissaire pour la faire obéir. On était à peine arrivé à Corbigny qu'une nouvelle sœur vint au monde. Mimi avait tout juste 18 mois, et cela fit bien des berceaux dans la cabine, bien de la besogne aussi. Car, avec toutes les charges que l'on avait, il n'était pas possible de payer une servante. La mère Louveau bougonnait à faire trembler la jambe de bois de l'équipage. Personne ne la plaignait dans le pays. Même les paysans ne se gênèrent pas pour dire leur façon de penser à monsieur le curé qui proposait le marinier pour exemple. « Tout ce que vous voudrez, monsieur le curé, ça n'a pas de bon sens, quand on a 3 enfants à soi, d'aller ramasser ceux des autres. » Mais les Louveaux ont toujours été comme cela. C'est la gloriole qui les tient, et tous les conseils qu'on leur donnera ne les changera pas. On ne leur souhaitait pas de mal, mais on n'aurait pas été fâché qu'ils reçussent une leçon. Monsieur le curé était un brave homme, sans malice, qui devenait aisément de la vie des autres et finissait par se rappeler un passage de l'Écriture ou des Pères, pour se rassurer lui-même sur ses revirements. « Mes paroissiens ont raison, se disait-il en passant la main sous son menton mal rasé. Il ne faut pas tenter la divine providence. » Mais comme à tout prendre, les Louveaux étaient de braves gens, il leur fit à l'ordinaire sa visite pastorale. Il trouva la mère taillant des culottes pour Victor dans une vieille vareuse, car le mioche était arrivé sans bagage et la ménagère ne pouvait souffrir des loques autour d'elle. Elle donna un banc à monsieur le curé, et comme il lui parlait de Victor, insinuant que, peut-être, avec la protection de monseigneur, on pourrait le faire entrer à l'orphelinat d'Autun, la mère Louveau, qui avait son franc-parler avec tout le monde, répondit brusquement. « Que le petit soit une charge pour nous autres, ça c'est sûr, monsieur le curé. » Mais avis que, en me l'apportant, François a prouvé une fois de plus qu'il n'était pas un aigle. Je n'ai pas le cœur plus dur que le père. Si j'avais rencontré Victor, ça m'aurait fait de la peine. Pourtant, je l'aurais laissé où il était. Mais maintenant qu'on l'a pris, ce n'est pas pour s'en défaire. Et si, un jour, nous nous trouvons dans l'embarras à cause de lui, nous n'irons pas demander la charité à personne. À ce moment, Victor entra dans la cabine, portant Mimile à son cou. Le marmot, furieux d'avoir été sevré, se vengeait en refusant de poser le pied à terre. Il faisait ses dents et mordait le monde. Ému de ce spectacle, monsieur le curé étendit la main sur la tête de l'enfant trouvé et dit solennellement « Dieu bénit les grandes familles !» Et il s'en alla, enchanté d'avoir trouvé dans ses souvenirs une sentence si appropriée à la situation. Elle n'avait pas menti, la mère Louveau, en disant que Victor était maintenant de la famille. Tout en bougonnant, tout en parlant sans cesse de reporter le petit chez le commissaire, la femme de tête s'était attachée au pauvre Palot qui ne quittait pas ses jupes. Quand Louveau trouvait qu'on en faisait trop, elle répondait invariablement « Il ne fallait pas le prendre. » Dès qu'il eut 7 ans, elle l'envoya à l'école avec Clara. C'était toujours Victor qui portait le panier et les livres. Il se battait vaillamment pour défendre le goûter contre l'appétit sans scrupule des jeunes morvandiaux. Il n'avait pas moins de courage au travail qu'à la bataille, et bien qu'il ne suivît l'école qu'en hiver, quand on ne naviguait pas, il en savait plus à son retour que les petits paysans, lourds et bruyants comme leurs sabots, qui bâillaient 12 mois de suite sur l'abécédaire. Victor et Clara revenaient de l'école par la forêt. Les deux enfants s'amusaient à regarder les bûcherons saper les arbres. Comme Victor était léger et adroit, on le faisait grimper à la cime des sapins pour attacher la corde qui sert à les abattre. Il paraissait plus petit à mesure qu'il montait, et quand il arrivait en haut, Clara avait très peur. Lui, brave, se balançait tout exprès pour la taquiner. D'autres fois, il allait voir M. Maugendre à son chantier. Le charpentier était un homme maigre et sec comme une douve. Il vivait seul, en dehors du village, en pleine forêt. On ne lui connaissait pas d'amis. La curiosité villageoise avait été longtemps intriguée par la solitude et le silence de cet inconnu qui était venu du fond de la Nièvre monter un chantier à l'écart des autres. Depuis 6 ans, il travaillait par tous les temps, sans jamais chômer, comme un homme à la peine, bien qu'il passât pour avoir beaucoup de denrées, fit de gros marchés et alla souvent consulter le notaire de Corbigny sur le placement de ses économies. Un jour, il avait dit à monsieur le curé qu'il était veuf. On n'en savait pas plus. Quand Maugendre voyait arriver les enfants, il posait sa scie et laissait là sa besogne pour causer avec eux. Il s'était pris d'affection pour Victor. Il lui enseignait à tailler des coques de bateaux dans des éclats de bois. Une fois, il lui dit « Tu me rappelles un enfant que j'ai perdu. » Et comme s'il eût craint d'en avoir trop compté, il ajouta « Oh, il y a longtemps, bien longtemps. » Un autre jour, il dit au père Louveau « Quand tu ne voudras plus de Victor, donne-le-moi. Je n'ai pas d'héritier. Je ferai des sacrifices. Je l'enverrai à la ville, au collège. Il passera des examens, il entrera à l'école forestière. » Mais François était encore dans le feu de sa belle action. Il refusa, et Maugendre attendit patiemment que l'accroissement progressif de la famille Louveau, aux quelques embarras d'argent, dégoûta le marinier des adoptions. Le hasard parut vouloir exaucer ses vœux. En effet, on eût pu croire que le Guignon s'était embarqué sur la belle Nivernaise en même temps que Victor. Depuis ce moment-là, tout allait de travers. Le bois se vendait mal. L'équipage se cachait toujours quelques membres la veille des livraisons. Enfin, un beau jour, au moment de partir pour Paris, la mère Louveau tomba malade. Au milieu des hurlements des marmots, François perdait la tête. Il confondait la soupe et les tisanes. Il impatientait si fort la malade, par ses sottises, qu'il renonça à la soigner et laissa faire Victor. Pour la première fois de sa vie, le marinier acheta son bois. Il avait beau entortiller les arbres avec ses ficelles, prendre 36 fois de suite la même mesure, il se trompait toujours dans le calcul. Vous savez, le fameux calcul. Je multiplie. C'était la mère Louveau qui savait ça. Il exécuta la commande tout de travers, se mit en route pour Paris avec une grosse inquiétude, tomba sur un acheteur malhonnête qui profita de la circonstance pour le rouler. Il revint au bateau le cœur bien gros, s'assit au pied du lit et dit d'une voix désolée « Ma pauvre femme, tâche de te guérir ou nous sommes perdus. » La mère Louveau se remit lentement. Elle se débattit contre la mauvaise chance, fit l'impossible pour joindre les deux bouts. S'ils avaient eu de quoi acheter un bateau neuf, ils auraient pu relever leur commerce. Mais on avait dépensé toutes les économies pendant les jours de maladie, et les bénéfices passaient à boucher les trous de la belle Nivernaise qui n'en pouvait plus. Victor devint une lourde charge pour eux. Ce n'était plus l'enfant de 4 ans qu'on habillait dans une vareuse et que l'on nourrissait par-dessus le marché. Il avait 12 ans maintenant. Il mangeait comme un homme, bien qu'il fût resté maigrichon, tout en air, et qu'on ne pût encore songer à lui faire manœuvrer la gaffe quand l'équipage se cassait quelque chose. Et tout allait de mal en pis. On avait eu grand-peine au dernier voyage à remonter la Seine jusqu'à Clamcy. La belle Nivernaise faisait haut de toutes parts. Les raccords ne suffisaient plus. Il aurait fallu radouber toute la coque, ou plutôt mettre la barque au rancard et la remplacer. Un soir de mars, c'était la veille de l'appareillage pour Paris. Comme Louveau, tout soucieux, prenait congé de Maugendre après avoir réglé son compte de bois, le charpentier lui offrit de venir boire une bouteille dans sa maison. « J'ai à te causer, François. » Ils entrèrent dans la cabane. Maugendre, rempli de verre, ils s'attablèrent en face, l'un de l'autre. « Je n'ai pas toujours été isolé comme tu vois, Louveau. Je me rappelle un temps où j'avais tout ce qu'il faut pour être heureux. Un peu de bien, une femme qui m'aimait. J'ai tout perdu, par ma faute. » Et le charpentier s'interrompit. L'aveu qu'il avait dans la gorge l'étranglait. « Je n'ai jamais été un méchant homme, François, mais j'avais un vice. Toi, je l'ai encore. J'aime la denrée par-dessus tout. C'est ce qui a causé mes malheurs. Comment ça, mon pauvre Maugendre? Je vais te le dire. Sitôt marié, comme nous avons eu notre enfant, l'idée m'est venue d'envoyer ma femme à Paris chercher une place de nourrice. Ça rapporte gros quand le mari a de l'ordre et qu'il sait conduire sa maison tout seul. Ma femme ne voulait pas se séparer de son moutard. Elle me disait, « Mais mon homme, nous gagnons assez d'argent comme ça. Le reste serait de l'argent maudit. Il ne nous profiterait pas. Laisse ces ressources-là au pauvre ménage déjà chargé d'enfants. Épargne-moi le chagrin de vous quitter. » Je n'ai rien voulu écouter, Louveau, et je l'ai forcé à partir. « Eh bien ?»« Eh bien, comme ma femme a eu trouvé une place, elle a donné son enfant à une vieille pour le ramener au pays. Elle les a accompagnés au chemin de fer. Depuis, on n'en a plus jamais entendu parler. Et ta femme, mon pauvre Maugendre, quand on lui a appris la nouvelle, ça fait tourner son lait. Elle est morte. » Ils se turent tous deux, Louveau ému de ce qu'il venait d'entendre, Maugendre accablé par ses souvenirs. Ce fut le charpentier qui parla le premier. « Pour me punir, je me suis condamné l'existence que je mène. J'ai vécu 12 ans à l'écart de tous. Je n'en peux plus. J'ai peur de mourir seul. Si tu as pitié de moi, tu me donneras Victor pour me remplacer l'enfant que j'ai perdu. » Louveau était très embarrassé. Victor leur coûtait cher. Mais si on se séparait de lui, au moment où il allait pouvoir se rendre utile, tous les sacrifices qu'on s'était imposés pour l'élever seraient perdus. Maugendre devina sa pensée. « Il va sans dire, François, que si tu me le donnes, je te dédommagerai de tes frais. Ça serait aussi une bonne affaire pour le petit. Je ne peux jamais voir les élèves forestiers dans les bois sans me dire « J'aurais pu faire de mon garçon un monsieur, comme ces messieurs-là. Victor est laborieux et il me plaît. Tu sais bien que je le traiterai comme mon fils. Voyons, est-ce dit ?» On en causa le soir, les enfants couchés, dans la cabine de la belle Nivernaise. La femme de tête essaya de raisonner. « Vois-tu, François, nous avons fait pour cet enfant-là tout ce que nous avons pu. Dieu sait qu'on désirait le garder, mais puisqu'il s'offre une occasion de nous séparer de lui sans le rendre malheureux, il faut tâcher d'avoir du courage. » Et malgré eux, les yeux se tournèrent vers le lit où Victor et Mimile dormaient d'un sommeil d'enfant, calme et abandonné. « Pauvre petit, » dit François d'une voix douce. Il entendait la rivière clapoter le long du bordage et de temps en temps le sifflet du chemin de fer déchirant la nuit. La mère Louveau éclata en sanglots. « Dieu ait pitié de nous, François, je le garde !»